Zarcia.
Espace 2.
On ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Abusé d'hier, devenant l'abuseur d'aujourd'hui. Même s'il faut le souligner, tous les abusés ne deviennent pas abuseurs. Ce sont des humains qui n'ont jamais guéri de la souffrance, d'une souffrance elle-même jamais reconnue d'avoir jadis terriblement sous-existé. C'est en compagnie du psychiatre et psychanalyste Maurice Urny et de la théologienne et écrivain Lita Basset que nous évoquons la question de la guérison et du pardon. Michel Cocher est au micro, Jean-Claude Gailly en régie. Madame, Monsieur, bonjour.
À vue d'esprit.
Bécher, bonjour.
Bonjour.
On reprécise peut-être pour cette dernière émission d'Avis d'Esprit le mot pervers narcissique ou l'expression brièvement.
C'est assez complexe. En quelques mots, on peut dire qu'il y a un fondement de ces personnalités qui ont été abusées, gravement abusées, ou qui ont été dans un contexte qui les a menées à constituer cette organisation perverse narcissique, un fond psychotique ou psychopathologique, avec aussi au centre un vide, et les seuls sentiments durables qu'il y a là-dedans, c'est la peur, la rage, l'envie de vengeance. Et ils sont capables d'émotions, mais pas de sentiments. Et au-dessus de ça, il y a ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est le côté narcissique. On rappelle le mythe, Narcisse ne s'aime pas lui-même, il aime son image, cherche à le voir, à se miroiter dedans, au point de se confondre avec. Ce sont des personnes qui disent « oui, non, mais ça c'est réglé depuis très longtemps, mais tout ça est sous une couche de déni ». Et il y a ce déguisement au-dessus qu'on appelle le côté narcissique des pervers narcissiques.
Alors, un dernier volet pour évoquer la thérapie est un thème totalement absent dans le monde des pervers narcissiques que vous nous évoquez là brièvement. Ce monde absent, c'est celui du pardon.
Oui, dans le sens où il y a un déni du mal commis, la non-reconnaissance. Vous pouvez mettre quelqu'un qui a fait des horreurs devant les photos de ses victimes en disant « mais non, c'est pas moi qui ai fait ça ». Il en est peut-être même lui-même convaincu, d'ailleurs. Déni du mal commis, la non-reconnaissance de la destruction délibérée et encore moins d'excuses ou de réparation auprès des victimes. Et puis, on va également évoquer la thérapie hein, par le biais des expériences justement évoquées par le docteur Urny. Dernier chapitre de cette semaine, en votre compagnie, Lita Basset, Maurice Urny, autour de cette problématique à la perversion narcissique et qui met en lumière tellement de thématiques fondamentales et ontologiques, j'allais dire. Maurice Urny a bien y réfléchir. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit, voilà, vous avez deux pervers narcissiques dans la nature, ils se retrouvent ensemble. Et on se dit, mais c'est incroyable, pourquoi ces deux-là s'attirent et se retrouvent ensemble? Et quelque part, après coup, on se dit, tant mieux, vaut mieux que ce soit deux personnes comme ça qui se retrouvent ensemble que, j'allais dire, un névrosé et un pervers narcissique. Il y en a forcément un des deux qui finirait très mal.
Je crois que, en effet, il y a à distinguer, mais encore une fois, on est dans les grands schémas, dans les simplifications outrancières, mais que, grosso modo, on aurait, d'une part, des couples ayant une relation perverse narcissique. Je préfère beaucoup cette idée de relation à l'idée de gens, encore une fois, qui seraient structurés. Ça pose beaucoup de problèmes, pas seulement religieux, mais aussi déjà à notre niveau psychanalytique, l'idée de structure. Tout au plus, on peut parler d'organisation, par exemple, perverse pour un individu, ce qui est déjà beaucoup plus souple. Mais encore une fois, là, on aurait une relation perverse entre deux conjoints. Alors, comment est-ce qu'il se trouve là, l'alchimie de l'amour ou de la haine? Ce sont des choses qui nous dépassent. Je crois qu'il n'y a en tout cas pas beaucoup de hasard dans ces rencontres qui correspondent à ce dicton que qui se ressemble s'assemble, par exemple. Ce qui est assez juste.
Il dit aussi que les opposés s'attirent, c'est plus embêtant.
Non, dans le couple en général, disons, cette idée d'opposé qui s'attire, ce sont surtout des oppositions assez superficielles. En réalité, même chez les névrosés, les couples se constituent autour de ressemblances, mais des ressemblances inconscientes et qui sont des failles. Tu as les mêmes failles que moi, mais tu t'es débrouillé un peu différemment que moi, donc j'aimerais te connaître. Je suis attiré par ta solution à toi. Mais pour revenir au couple narcissique, pervers narcissique, il peut y avoir alors des situations très différentes où alors vous avez une personne qui n'est pas perverse, qui se trouve sous l'emprise, sous la prédation d'un pervers. Ça peut arriver dans des couples, ça peut arriver dans les entreprises, on appelle ça le mobbing. Ça peut arriver dans des situations même nationales. Enfin, il y a des peuples entiers qui ont été comme ça menés par soit un, soit une clique de pervers. Donc nous avons là alors une sorte de démolition du névrosé qui va se faire, encore une fois, avec ses valeurs à lui, etc., qui vont être laminées.
Si l'un des deux acceptait de manière autonome de faire une démarche thérapeutique, est-ce que ça le mettrait en danger par rapport à l'autre, hein, puisque ça serait l'ouverture d'une faille aussi ?
Racamier, qui était le premier à affronter ces pathologies, a été assez durement secoué, comme d'ailleurs nous-mêmes avec ma collègue plus tard, mais peut-être lui encore plus, ce qui l'a amené à une position très prudente. Il n'y a rien à gagner de la fréquentation des pervers narcissiques. Ou bien même des fois un peu ironique, il a dit les pervers viennent consulter lorsqu'ils ne le sont pas assez. Donc, il y a l'idée qu'il y a un détournement là, du sens des soins qui sont utilisés pour exacerber la violence, par exemple en accusant le conjoint ou en élargissant la dispute à différentes personnes autour. Donc, il y avait une attitude au départ, je crois, très, très, très prudente. Racamier a aussi étudié ce qu'il a appelé des noyaux pervers dans les institutions, qui sont des drôles de constitutions de groupes très pernicieux. Et alors il a aussi émis cet aphorisme qui dit « quand on trouve un noyau pervers, on le crache ». Cette violence, c'est surtout l'idée de prévenir des attitudes beaucoup trop compréhensives, qui ne sont encore une fois pas de mise avec cette violence. Ceci dit, depuis Racamier, on a fait quand même passablement de progrès. Il y a toute une approche, je crois, qu'on a développée avec ma collègue de ces problématiques qui passe par un dévoilement de la violence. On la nomme, on dit voilà, c'est ça que nous constatons, etc. Une confrontation avec les manœuvres, voilà comment on constate que ça se transmet, cette violence, que ça se manifeste entre vous, etc. Donc il y a une partie, une étape comme ça, très, en général très intense, pour ne pas dire virulente. Enfin, ce sont des conflits presque qui surgissent dans la mesure où souvent le thérapeute est pris comme un ennemi par le pervers. Ce qui est embêtant quand on a des politiques qui pensent la même chose. En pensant qu'en supprimant les médecins, on va supprimer la maladie. Bref, donc, il y a une étape de traitement très intense et qui, si elle aboutit, peut alors tout à fait, soit individuellement, soit en couple, aboutir à une sorte de traversée de la violence, mais pour autant qu'elle ait été affrontée. Hein. Il ne s'agit pas de la contourner, là, il s'agit vraiment de l'affronter bec et ongles. Et à ce moment-là, de l'autre côté, on est très souvent ému presque de trouver une autre pathologie beaucoup plus psychotique, beaucoup plus autistique, de gens qui n'ont vraiment aucune idée qu'est-ce que c'est que le rapport à l'autre. Et alors là, il y a des gens vraiment, mais archi nus, on pourrait dire, ou démunis, qui disent « Mais pour moi, mon mari, c'est un martien. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous comment est-ce qu'il faut manger, comment est-ce qu'il faut dormir, comment est-ce qu'il faut gagner notre vie ou échanger. » Enfin, et donc, il y a là une étape beaucoup plus pacifique, si on veut bien. Et puis, alors, évidemment, tout ceci amène, mais alors à long terme, la redécouverte d'un espace symbolique qui a été généralement complètement laminé, écrabouillé, enfin massacré. Et donc, il y a un travail qui peut se constituer et qui peut permettre de nouveau l'accès à cette dimension de l'existence.
Lita Basset, on dit que c'est quand la tête et le cœur s'unissent dans la guérison, puisque vous avez écrit ce livre « Guérir du malheur », donc il y a un travail derrière, que le pardon est possible, même si l'auteur du mal ne reconnaît pas ses fautes. Pour la mémoire, on va le dire, c'est une autre histoire encore, il y a des échos qui sont parfois différents, mais au fond, même si la démarche est bien avancée, et en comprenant que c'est, en l'occurrence, le mal subi et clivé au fond de certaines personnes qui les poussent à détruire, au fond, est-ce que ce pardon-là ne devrait pas être tu face à une personne comme ça, parce que ça voudrait dire « mais attends, tu me pardonnes, mais de quel... » Enfin, je veux dire, ça serait se montrer supérieur à son agresseur. Est-ce que ça serait pas ça une vraie compassion? C'est de dire « ok, je te pardonne, mais je te pardonne à l'intérieur de moi, je vais pas te dire « je te pardonne ». C'est aussi se placer au-dessus de quelqu'un, de dire « je te pardonne ».
C'est peut-être pour ça que Jésus avait dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et pas à eux, justement. Ça irait dans le sens de ce que vous dites. Pour moi, la question du pardon, c'est avant tout une affaire entre soi et soi-même, puisque ça, c'est une affaire très concrète qui signifie... Le verbe grec veut dire « laisser aller ». Et c'est une démarche que je fais pour me libérer moi-même, en fait. Alors, je pense que quelqu'un qui a subi beaucoup de maltraitance par quelqu'un de pervers narcissique va pouvoir faire ce travail avec soi-même et pouvoir... trouver son unité intérieure, c'est, vous disiez, la tête et le cœur, c'est-à-dire que se réunifier soi-même et à ce moment-là lâcher la personne qui l'a traité de cette manière-là, la laisser aller, vis ta vie et moi je vivrai la mienne. Mm-hmm. Maintenant, bon, quand il s'agit d'un couple, c'est plus problématique. Mais souvent la question m'est posée après des conférences ou des sessions sur le pardon, on me dit, mais le problème, c'est que la maltraitance recommence le lendemain ou le jour même. Même si on a fait cette démarche intérieurement de lâcher et de tourner la page, parce qu'on a retrouvé cette unité intérieure et puis qu'on ne veut pas rester dépendant de cette histoire. Mmh. Mais si ça recommence, là, je pense qu'il faut se poser vraiment sérieusement la question, est-ce que je suis obligée de vivre avec cette personne-là au quotidien? Si c'est un couple, ça pose des tas de problèmes, mais c'est sûr que si c'est des relations dans d'autres cadres, si je dis une phrase un peu bébête qui consiste à dire on n'est pas obligé de vivre avec tout le monde. Je suis frappée du nombre de gens dans la Bible qui, par sagesse en tirant les leçons du passé, décident de ne pas de vivre leur vie chacun de son côté. C'est impressionnant. Depuis les premiers chapitres, c'est Abraham dit à Lot, qui est son neveu, choisis un côté, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche et vice versa. Et Jacob et Ésaü qui ont failli s'entretuer, enfin c'est une affaire quand même très conflictuelle entre les deux frères, quand pour finir les choses se résolvent bien puisqu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre, on pourrait croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on recommence comme si on était une famille unie et tout. Pas du tout. Jacob dit à son frère Ésaü, écoute, moi j'irai mon chemin avec ma famille, mes troupeaux, etc. Puis Ésaü dit, mais écoute, moi je viendrai volontiers avec toi, je t'accompagnerai volontiers sur ton chemin. Et Jacob dit, non, ça ira très bien comme ça, merci, c'est gentil. Alors Ésaü insiste encore une autre fois et Jacob n'en démord pas, va ton chemin et moi j'irai le mien avec... Et c'est très impressionnant. Mm-hmm. Et il y a bien d'autres exemples comme ça. Donc, je dirais que c'est vraiment la sagesse. On n'est pas obligé de fréquenter tout le monde. Alors, dans ce
sens... Quitte à couper un lien.
Mais non! Pour moi, ça ne veut pas dire que le lien soit coupé. Parce que moi, maintenant, si j'ai, avec la lucidité dont on a parlé depuis le début, j'ai tout à fait mesuré l'ampleur de cette perversion narcissique, ça ne m'empêche absolument pas de rester amicale avec cette personne, même en ne la fréquentant pas au quotidien. Si je la rencontre, je ne changerai pas de trottoir. Je la saluerai amicalement. Le lien n'est pas rompu. Sauf que ce n'est pas un lien de la même nature que je peux avoir comme lien avec quelqu'un où il y a une réelle réciprocité.
La différence avec mon expérience clinique, ce sont souvent des gens qui ne peuvent pas avoir cette liberté, justement, qui sont dans leur propre famille confrontés à ces liens ou ces ligatures, parce que ce sont des situations, très souvent, des sortes de liens, des imbroglios, des écheveaux de liens très complexes qui ne permettent pas à la personne, justement, de finalement, comme dans n'importe quelle famille d'ailleurs, de dire, bon, voilà, maintenant, je fais mon chemin, et puis si on se rencontre, tant mieux, et puis voilà. Donc, très souvent, la thérapie consiste à aider la personne ou les personnes dans ces familles. Il y a l'idée, un petit peu la métaphore du nœud qui est trop serré. Alors on tire un petit peu d'un côté, on tire de l'autre, etc. Et finalement, ce nœud comme ça serré s'ouvre et devient un peu perméable. Alors voilà une idée un petit peu de thérapie de pervers. Mais il faut bien dire, ces thérapies se heurtent toutes ces tentatives d'émancipation ou d'affirmation ou de libération d'une personne, d'une famille, se heurtent exactement à des efforts contraires. Il y a une sorte
Mais justement, moi, je pense qu'on n'est pas condamné à rester dans une famille qui vous coupe les ailes régulièrement.
Pas du tout.
Il y a même quelque chose de très clair, là, on avait parlé en préparant cette émission de l'épée, la fameuse épée, quand le Christ dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. » Et je suis venu séparer, en fait, différencier, on pourrait dire, le fils du père, la fille de la mère, la belle-fille de la belle-mère. Et c'est tous des rapports, justement, enchevêtrés, tels que vous les décrivez. Et il y a l'idée d'une épée, c'est tranchant, une épée, ça provoque quelque chose de douloureux, mais c'est une douleur qui est chirurgicale d'une certaine manière, parce que ça va permettre que...
Qu'il n'y ait pas la répétition.
Ça va permettre de trancher des liens qui étaient des sortes de ligatures totalement mortifères, quoi.
Tout le monde s'étouffe.
Tout le monde s'étouffait.
Maurice Urny, alors s'il y a une chose qui est vraiment exclue du monde des pervers narcissiques, c'est comme les mots confiance, ils peuvent les avoir à la bouche, mais c'est autre chose encore que de les vivre. Le mot pardon, ils peuvent l'avoir à la bouche, mais c'est encore autre chose de réparer le mal commis. Au fond, ce pardon-là, il se situe où en eux?
Le pardon, moi je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est pas du tout alors mon domaine. C'est quelque chose de magnifique. J'ai bien entendu ce que Madame Basset nous en a dit. Je dis simplement, comme avec toutes les belles choses, ce n'est pas quelque chose qui doit se vivre de façon précipitée. Par exemple, j'ai des patients qui ont cette tentation de pardonner ou comme une sorte de fuite dans la guérison, si on veut bien. Voilà, il faut faire attention. Mais dans les dynamiques de perversion, c'est évident que, alors, d'une façon générale, là, le pardon n'existe pas. Et bien au contraire, il y a l'idée d'amener l'autre à un faux pas, réel ou plus ou moins réel. Je pense par exemple à une patiente qui disait, il y a 30 ans, lors de notre nuit de noces, mon mari n'a pas été romantique. Et on n'a jamais très bien su qu'est-ce que ça voulait, quelle était cette accusation. Mais 30 ans plus tard, elle était toujours aussi valable que 30 ans avant. Et elle lui donnait comme ça une sorte de pouvoir, de culpabilisation aussi, dont on a parlé, sur son mari, qui regimbait un peu, mais enfin, quelque part, avait quand même accepté cette définition. Donc voilà, en tout cas, le pardon, là, n'intervient pas.
Ce qui paraît très, très étranger aussi, c'est cette incapacité à s'excuser, à reconnaître le mal qui a été fait. Même si, j'allais dire, c'est sous leurs yeux, c'est ça qui paraît complètement étranger, de s'excuser, oui. De reconnaître.
Encore une fois, s'excuser, pardonner, témoigner de la reconnaissance, enfin, tous ces mouvements sont des mouvements très, très évolués. Qui ne sont pas possibles dans certaines catégories, justement, où ces registres ne sont pas du tout de mise. On a parlé de la peur, etc. Il y a quand même, on a parlé de l'intervention des autres, un exemple qui me vient en tête de cet apport bénéfique, c'était un patient qui avait abusé de son enfant et il y avait là quelque chose de vraiment odieux et qui s'est trouvé tombé amoureux d'une jeune fille et il découvre que cette jeune fille a été elle-même abusée par son père. Et il en est absolument ébahi. Il voit cette malheureuse jeune fille paniquée, angoissée, avec toutes sortes de séquelles, disons, de ce qu'elle a enduré. Et à ce moment-là, tout d'un coup, il réalise qu'est-ce que lui a fait. Donc voilà, on parle de guérison, vous voyez. Bon, après, il y a tout un travail, bien sûr, qui doit se faire. Mais voilà, comment ça peut se passer dans la réalité.
Ce qui est problématique,
clinique. C'est
qu'il tombe amoureux d'une jeune femme qui a déjà subi ça. Enfin, je veux dire, est nouveau, les abusés, les abuseurs qui s'attirent comme des aimants.
À travers ça, il trouve une issue.
Le pardon, toujours avec vous, Lita Basset, se pardonner à soi-même, alors ça c'est tout un programme. Hein.
Oui, mais je voulais d'abord réagir par rapport au pardon, d'accord. Où Maurice Urny disait que c'était une belle chose. Et moi, je dirais pas du tout ça. Et parce que ça n'a rien de beau pour moi, ça a quelque chose de totalement naturel. C'est comme le fruit qui, quand il est mûr, il tombe de l'arbre. Mais je sais que en disant ça, c'est ma définition à moi du pardon. Le mot est totalement piégé par une attitude volontariste, qui est en général totalement inefficace, parce que quand on veut pardonner, on peut être sûr qu'on est à côté de la plaque.
Comme quand on veut faire confiance.
Si on veut pardonner, c'est qu'on se fait violence d'une certaine manière, tandis que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est aussi naturel qu'un fruit mûr qui tombe de l'arbre. C'est à un moment donné, j'ai retrouvé mon unité intérieure, j'ai retrouvé ma paix profonde et j'ai même retrouvé ma joie d'être vraiment moi-même en ayant eu accès à ma vérité, à la vérité de mon histoire, à la vérité de ce que j'ai pu subir. Et à partir de là, je n'ai aucun intérêt de rester pieds et poings liés, dépendante de la personne qui m'a fait souffrir. C'est complètement dans mon intérêt de lâcher, de la laisser partir, de sauver ma liberté, de sauver mon indépendance et de ne pas rester ligotée, liée, parce que c'est une autre forme de lien, comme cette dame qui était restée 30 ans avec son grief, elle se pourrissait la vie, en fait.
Bien sûr,
et moi, je dis que dans ce sens, pardonner dans le sens de laisser aller, ça me permet de ne plus me pourrir la vie. Va, vis ta vie, ce qui est fait est fait, et moi, je n'ai plus envie de pourrir là-dedans, j'ai envie de vivre mon propre chemin.
Ça veut dire arrêter d'être...
Il n'y a rien de grandiose là-dedans, il n'y a rien de vertueux pour moi. C'est très mon terre à terre, c'est mon intérêt.
Ça revient à la question de mais qu'est-ce que c'est qu'une victime ? Une victime, c'est quelqu'un de blessé. Or,
oui, mais ça, c'est normal.
Une victime blessée guérie finit par ne plus être une victime.
Elle a intégré que dans son autonomie. Histoire, elle a été salement victime. Elle a complètement pris la mesure de ça et elle l'a intégré. Et elle n'a plus envie de rester éternellement. À la remorque de cette affaire et de cette personne-là. Donc voilà, c'est quelque chose. Alors c'est vrai qu'entre dans ce processus la question de se pardonner à soi-même, comme vous disiez tout à l'heure. C'est sûr que si moi je continue à me dire ouais, mais si j'avais fait comme ci ou si j'avais fait comme ça, ça ne serait jamais arrivé et quand même je m'en veux, je vais continuer.
Comment j'ai pu me laisser piéger ?
C'est sur le registre de la culpabilité. Je dis toujours que pour que ce fruit mûr tombe de l'arbre, il y a une des choses principales, c'est que je lâche complètement la culpabilité. Pas seulement celle de l'offenseur, pas seulement celle de Dieu, éventuellement, si je l'ai rendu coupable de ce qui m'est arrivé, mais aussi la mienne. C'est-à-dire que j'ai pas pu empêcher ce qui s'est passé et je vais pas me pourrir ma vie le restant de mes jours à m'accuser d'avoir pas pu empêcher ce qui s'est ça n'a pas de sens. Si mon but c'est de retrouver ma liberté et mon indépendance, c'est sûr que je vais accepter que ma foi c'est comme ça, je vais me pardonner à moi-même, mais ce qui veut dire aussi que j'ai intégré, j'accepte une image de moi qui est pas intacte. J'intègre, j'accepte et j'assume une image de moi où j'ai été dans l'impuissance, j'ai été ravagée, j'ai eu telle et telle séquelle. Tout ça, c'est ma réalité. Je ne suis pas dans un fantasme de... c'est comme si rien ne s'était passé. Pas du tout. Ça s'est passé. Ce qui a été. Mais je peux regarder toute cette histoire... Même en regardant toutes les plumes que j'y ai laissées.
Et même en traversant les émotions que ça a
complètement. Ça fait partie, c'est une image de moi que j'intègre, que j'ai été celle qui a été traitée de cette manière-là.
Qu'est-ce que la foi vient aider là-dedans ?
La foi, elle vient aider dans le sens que, même si cette image de moi-même a été bien amochée, et si j'y ai laissé beaucoup de plumes, il demeure que l'expérience de cette unification de mon être avec la vérité de ce que j'ai vécu en le voyant de façon très lucide et réaliste et tout, l'unification de mon être me fait me mettre en contact avec ce noyau indestructible dont on avait parlé au début, qui lui est hors d'atteinte des offenseurs éventuels futurs. Ce que je vois aussi dans les personnes qui font ce genre de cheminement, ce qu'amène peut-être la référence à Dieu ou la quête spirituelle ou la vie spirituelle, c'est que il y a une sorte de mise en contact avec ce que j'ai en moi d'indestructible,
Quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever.
Non défigurable.
On ne peut pas vous enlever ça.
C'est ça. Mmh. Je sais pas, c'est un peu mystérieux, mais c'est souvent les gens disent ça, que il y a, j'accède à ce qui en moi a survécu, mais dans le bon sens du terme, parce ça a survécu parce que ça c'est indestructible, c'est mon noyau dur d'une certaine manière.
Ça a été constitué au départ, il est arrivé ce qui est arrivé.
Et a été pulvérisé. J'ai l'impression qu'il y avait eu plus personne, que ouais. C'était un champ de décombres.
Mais il y avait encore ce fond là.
Mais en fait, je découvre que il y avait ça et que ça. À l'avenir, c'est pour ça que les gens qui ont vécu ce genre de parcours sont devenus incroyablement fortes. Et ils ont fait connaissance avec ce noyau indestructible en eux. Et que, bien sûr que par la suite, il y en aura d'autres pervers narcissiques, il y en aura d'autres comportements destructeurs autour, probablement à vivre. Mais quelque part, cette histoire-là, ça les aura vraiment fait connaître une force en eux qu'ils n'avaient pas soupçonnée, en fait.
Maurice Urny ?
Oui, je suis vraiment impressionné par cette description et vraiment qui correspond à une force vitale, disons, sous toutes ses coutures, toute la capacité de transformation du malheur en quelque chose de positif et même de structurant et d'enrichissant et de maturant. Là, disons, je crois que quand même vous décrivez des cas de figure, je ne veux pas dire exceptionnels, mais disons de gens qui ont des capacités, disons,
d'analyse,
d'intérioriser, finalement de faire ce genre de travail.
D'accepter de descendre dans cet enfer.
Tout à fait.
Voilà, exactement.
Absolument.
Dans mon expérience clinique, disons, je suis peut-être amené à plus de modestie, dans le sens qu'il y a rarement des évolutions aussi impressionnantes. Ceci dit, il y a quand même alors des fois, sous un angle plus collectif, par exemple des familles ou des groupes, des évolutions tout à fait impressionnantes de libération. Quand il y a par exemple un secret de famille, n'est-ce pas ? Qui était un toxique, qui empoisonnait vraiment toutes les relations, au moment où le secret est vanté, où les choses sont dites, eh bien, il y a une sorte d'équivalent un petit peu de ce que vous décriviez, mais au niveau du groupe.
C'est ça.
C'est-à-dire, tout d'un coup, la vie revient, il y a la possibilité tout d'un coup d'échanger, de parler, de savoir la vérité, il y a toute une circulation fantasmatique, comme le sang, qui réapparaît, et qui nourrit les échanges, qui... alimente l'imagination, il y a la curiosité qui revient, qui avait été jusque-là complètement étouffée.
Et la liberté de parole aussi.
La liberté de parole, l'intérêt pour notamment le passé, la généalogie, la tradition. Il y a toute une intégration dans une histoire qui se fait, toute une recherche de sens, tout aussi le futur qui se dégage. Et aussi, on l'a constaté dans les groupes, notamment professionnels, les gens commencent à rire.
Ah, oui.
Ça, c'est le signe que, au fond, on est au bout du tunnel. C'est quand il y a l'humour et la possibilité de raconter un peu des bêtises des choses comme ça.
C'est vrai que le rire a un effet aussi de distanciation
et aussi un indice de qu'il y a libération. Ouais.
Voilà, c'est un bon indice, je crois.
Ouais. Une belle conclusion. Lita Basset, Maurice Urny, merci.
Lita Basset et Maurice Urny étaient vos invités, Anne Bécher, pour toute cette semaine. On termine une semaine qui a été passionnante, mais pas très facile non plus. Un mot peut-être plus personnel ?
Je dirais que d'abord, on n'a pas pu tout évoquer. C'est un monde complexe et qu'on commence à découvrir. Et ensuite, puisqu'on terminait sur la guérison et le rire, j'ai envie de dire que la guérison, Maurice Urny avait cette jolie phrase en disant « C'est quand on commence à rire qu'on sait que là, il y a un bon indicateur. » Et je le dirais aux névrosés, peut-être qu'ils se sont retrouvés coincés dans ce genre de choses-là. C'est lorsqu'à un moment donné, on retrouve, comme diraient certains, sa souveraineté d'être, ce qu'on est au fond, jusqu'à la douce indifférence à soi et jusqu'au rire.
À tous, indifférence à soi. Merci beaucoup. Merci. Plus d'informations sur notre site www.rsr.ch/esprit ou une réaction ou une commande d'enregistrement sur CD de l'émission à notre numéro de téléphone 021 318 60 70. La semaine prochaine, avec Jacques Mourican, nous partons à la découverte des enfants du presbytère, ces enfants de pasteurs marqués par le métier de leur père, mais aussi par un lieu et peut-être et sans doute par une culture bien protestante. Merci de votre attention. Suite maintenant du programme d'Espace 2 d'un air entendu.
Mozart travaillait exactement comme on travaille à Hollywood, c'est-à-dire d'une façon apparemment exclusivement commerciale, sur commande, avec de nombreuses contraintes vraiment idiotes. On ne doit pas imaginer Mozart, Beethoven, Rossini ou Verdi comme des auteurs libres avec leur imagination, leur inspiration, leur fantaisie. Rien de tout ça. Ils étaient des machines à faire de l'argent. Et sous cette contrainte, ils étaient géniaux. Alessandro Barrico.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella.